RCF.
Bonjour, aujourd'hui dans Vie de famille, nous allons découvrir les ingrédients pour vieillir dans la joie. Tout d'abord, je ne vous apprendrai rien en vous disant que vieillir est un processus qui se produit tout au long de la vie. Mais voilà, en France, la retraite à 65 ans, elle nous propulse à la vie, de la vie active à la vie passive. À un âge relativement jeune, nous faisons passer pour des vieux. Vieillir donc, personne n'y échappe. Mais selon notre vécu, nous abordons plus ou moins bien cette période de notre vie. Existe-t-il des recettes du bien vieillir? Qu'est-ce que bien vieillir? Sommes-nous toujours dans le mythe de l'éternelle jeunesse? Y a-t-il des seuils à passer et comment? Et surtout, en vue de quoi? Pour nous en parler, j'ai la joie d'accueillir Emmanuel Demaillard. Bonjour.
Bonjour.
Je vous remercie Emmanuel d'être présent aujourd'hui dans les studios de RCF Hauts-de-France pour Vie de famille. Alors Emmanuel, vous êtes marié et père de famille. Vous êtes accompagnateur du coaching chez Decathlon. Vous êtes formateur sur les thèmes tels que vieillir dans la joie, le sens de la vie, les valeurs, le management et également bénévole en soins palliatifs. Alors, j'ai quand même envie de commencer cette émission en vous demandant, Emmanuel, quel âge avez-vous?
J'ai 41 ans.
Est-ce que c'est déjà l'âge où on se pose la question comment je prépare mon grand âge?
Je ne sais pas, mais on dit souvent qu'on devient formateur sur les... En tout cas, on découvre les sujets qui nous passionnent le plus et qui nous questionnent le plus. Et je crois que si, en tout cas, j'ai lancé des séminaires autour du bien vieillir, c'est parce que c'était une question qui, en tout cas, commençait à m'interroger et que j'avais envie d'explorer.
Ouais. Et vous cherchez déjà des réponses.
Et je commence à chercher quelques réponses, à retrouver, j'espère.
Alors, j'espère que vous allez nous en apporter, en tout cas. Alors, est-ce qu'effectivement, on vieillit tous de la même manière, déjà?
C'est une bonne question. Et ça, c'est un point qui est important. On a vu que la longévité est augmentée de façon incroyable. Dans les années 1750, on avait une espérance de vie de 25 ans. C'était il y a 250 ans. Et maintenant, on a des espérances de vie qui vont au-delà de 80 ans. Donc ça change complètement le rapport au vieillissement. Ça change énormément de choses. Et finalement, pour que tout le monde bénéficie de cette augmentation de la durée de vie, il y a une question importante à se poser, c'est est-ce qu'on vieillit de façon égale ou pas? Et pour moi, non, puisqu'il y en a des inégalités de revenus, des inégalités de conditions de vie, et que c'est important pour que tout le monde en bénéficie, qu'on contribue chacun à mieux équilibrer les richesses. Parce que sans ça, on va pas tous bénéficier de cette augmentation de la durée de vie.
Donc en tout cas, si on peut se poser la question de comment je prépare mon vieillissement ou mes vieux jours, c'est le privilège de quelques-uns.
C'est le privilège de quelques-uns. Et bah, la première question, c'est déjà de se poser la question, bah, voilà, comment je vais vivre, avec quel revenu, dans quel logement. Et ça, c'est une question essentielle à se poser et à anticiper. C'est-à-dire quand on prépare son vieillage.
Répondre effectivement aux besoins primaires. Et puis après, on pourra passer éventuellement.
Exactement.
Une fois que ça sera en sécurité, on peut se poser les autres questions.
Voilà, c'est la pyramide de Maslow. On va d'abord s'occuper des besoins primaires. Ça n'empêche pas qu'on peut travailler sur plein d'autres sujets. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà. Mais ce bas de la pyramide, il est essentiel.
Mais pour vous, c'était important effectivement de poser cette base pour dire que voilà, c'est une chance quand on peut se poser la question de voilà, comment je peux améliorer ce temps qui va être un peu plus passif, en tout cas dans la société. Alors, il y a surtout des peurs, en fait. D'ailleurs, vous-même, vous l'avez dit, vous posiez des questions. Donc, les questions, c'est souvent parce qu'on a des peurs. Alors, quelles sont ces peurs qu'on va essayer d'identifier dans un premier temps pour voir, pour que chacun puisse se retrouver, effectivement, et identifier qu'est-ce que, dans ce futur qui va arriver pour chacun, qu'est-ce qui peut m'ébranler?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de peurs et en même temps, il y a la réalité. La réalité, c'est que pour la plupart des personnes, on va vivre dans des bonnes conditions.
C'est vrai que souvent, les peurs, c'est parce que...
Les peurs, c'est ce qu'on s'imagine.
C'est ce qu'on imagine.
Ouais. Mais il arrive jamais tout ce qu'on s'imagine, et heureusement. Si on regarde les personnes âgées, il y en a 70% qui vivent à domicile. Je crois que à l'époque, les chiffres d'il y a quelques années, sur les 17 millions de personnes âgées, il y avait 15 millions qui allaient très bien, qui étaient en bonne santé, qui vivaient dans des bonnes conditions. Donc, Les peurs, on va en parler, mais malheureusement, ces peurs, c'est celles qui vont nous occuper le cerveau, c'est celles qui vont nous monopoliser l'esprit. Donc, on va parler de cette peur, mais voilà, il faut être aussi conscient que finalement, il y a plein de peurs qu'on ne va pas affronter. Et la réalité, c'est qu'on ne va pas les vivre. Donc, voilà, gardez bien ça en tête.
Bah alors, il n'empêche que du coup, on ne va pas arrêter notre émission là, parce qu'effectivement, elles existent. Même si elles sont imaginaires, ces peurs, elles existent quelque part.
Exactement.
Il y a bien quand même, ne serait-ce que quand on vieillit, effectivement, une perte de vitalité. Donc, c'est la première chose qu'on perd même quand on avance en âge.
Alors, en tout cas, la vitalité, on va essayer de la garder, mais on va perdre d'autres choses. Moi, je me suis beaucoup appuyé sur tous les travaux de Marie de Hennezel, qui est voilà, une personne qui m'inspire beaucoup pour parler du vieillissement, du grand âge. Et elle a identifié voilà, cette grande peur que j'avais envie d'explorer. La première peur qu'elle a évoquée, c'est la peur du vieillissement physique. Mais derrière le vieillissement physique, c'est la peur de plus séduire. C'est la peur de plus avoir un corps qui soit peut-être beau, selon l'image que peut donner la société du beau.
L'esthétique actuelle.
Ouais. J'étais à la pharmacie il y a quelques semaines et sur le comptoir, j'étais horrifié. Il y avait une crème anti-âge, parce que maintenant ça s'appelle des crèmes anti-âge. Ce n'est plus des crèmes anti-rides, c'est des crèmes anti-âge. Comme si l'âge, il fallait lutter contre. Et moi, rien que ça déjà, ça témoigne d'une vision de la société du corps, d'une vision de la société de l'âge. Il y a une autre femme que j'aime beaucoup, Christiane Singer, elle disait plutôt que de vendre des espaces de publicité en disant acheter des crèmes anti-âge ou anti-rides, si on vendait un espace de publicité, si j'achetais un espace de publicité sur une radio et que je disais surtout n'achetez aucune crème anti-rides, mais prenez le temps de vous poser la question quel est mon rapport au corps, comment puis-je apprécier ces rides qui témoignent de mon expérience de la vie. Alors, je pense qu'on m'interdirait de l'acheter l'espace.
D'y voir les chemins de la vie, en fait, c'est ça. De ta vie vécue, finalement.
Exactement.
Mais c'est vrai qu'il y avait, dans un absolu, il y a presque des gens qui trouvent ça indécent de se promener avec des rides, en fait. On est rentré quand même dans un process assez particulier, quoi.
Ouais. Il y a une belle phrase qui disait « Ne touchez pas à mes rides, j'ai mis tellement d'années à les obtenir.
» Bon, alors, première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle.
La deuxième peur, en tout cas, qui était évoquée, c'était la peur d'être un poids, devenir un poids, pas pour la société, parce que les gens, quand on leur pose la question,
ils estiment qu'ils ont travaillé.
J'ai assez cotisé.
Ouais, c'est ça.
Voilà, j'ai travaillé, je mérite bien d'avoir ce temps-là. Mais il faut quand même savoir que quand la retraite a été créée, on avait une espérance de vie qui était dans les environs de 65-70 ans. C'était un petit bonus de quelques années. Maintenant, ce qui a tout changé, c'est qu'on va vivre pendant 10, 20, 30, 40 ans. Avec peut-être une vingtaine d'années au moins en bonne santé. Donc, il y a quelque chose qui vraiment a changé.
Et là, c'est vraiment quand même une sacrée charge.
Et là, on peut devenir une charge. Plus pour nos enfants, nos petits-enfants potentiellement. Et ce qu'on est amené à vivre, en plus, dans nos générations, en tout cas pour ma génération, c'est que potentiellement, on va avoir nos parents à gérer, dont on va devoir peut-être s'occuper. Et puis après, on aura nos enfants qui vont aussi grandir. Et à un moment donné, nous, on va devenir vieux également. Donc, on va être un peu pris en sandwich là, entre plusieurs générations. Et potentiellement, on peut devenir un poids. Donc, la question à se poser, c'est comment en fait, je considère, et comment déjà, moi, je considère le rapport à mes aînés, à mes parents. Est-ce que je considère ça comme un sacrifice,
une charge
ou un sacrifice? Sacrifice qui vient du mot faire sacré. Hein. Donc, un sacrifice, c'est censé être quelque chose de beau. Hein. Se sacrifier, en tout cas, décider de s'occuper
de ses... Donner du temps.
Donner du temps.
Alors après, est-ce que dans ce temps, être un poids dans la société, ça pourrait être aussi de dire comment maintenant je peux être acteur dans la société? Ça pourrait être tourné un peu autrement.
Exactement. Et l'idée, c'est de se dire, mais voilà, comment déjà je peux essayer de ne pas peser psychologiquement? Puisque financièrement, peut-être que je pèserais quand même sur mes enfants, mais comment psychologiquement, je peux ne pas peser sur eux?
Et au contraire, apporter mon effort, c'est-à-dire voilà, m'engager dans des associations, c'est la plupart des gens.
M'engager, rester autonome le plus longtemps possible, m'engager pour des causes, on en parlera tout à l'heure. Mais comment je développe une culture, peut-être de l'autonomie, d'une certaine indépendance en tout cas dans mon mode de vie. Ouais. Et comment j'accepte aussi, puisque je vais peser, mais comment j'accepte de me laisser aider aussi. Elisabeth Kloeber-Ross, qui est une femme qui a beaucoup travaillé sur la fin de vie, elle écoutait une femme qui lui disait « J'ai envie de mourir car j'ai pas envie de peser sur mes enfants. » Et elle lui a répondu, vous en êtes tellement occupé durant votre vie, laissez-leur la possibilité de vous aider maintenant.
Et de vous rendre la monnaie.
Et de vous rendre la monnaie. Ouais. Et ça, je le vois en soins palliatifs, parce que je vois des familles avec des enfants très très présents qui sont là tout le temps, qui se relaient jour et nuit avec leurs parents. Et puis je vois aussi des personnes qui sont seules. Donc je vois qu'on n'a pas tous ce même rapport au poids, à la capacité de se laisser aider ou pas.
Oui, c'est ça. Et peut-être aussi à ce qu'on a donné ou pas dans la vie. Hein.
Et de, voilà, on récolte aussi un petit peu de ce qu'on a donné. Donc, il y a des personnes qui se retrouvent malheureusement seules parce que voilà, elles ont aussi créé quelque chose autour d'elles qui fait qu'on n'a plus envie d'aller les voir.
Et, ouais.
Et ça, c'est une des clés. Rester des lieux désirables. On a envie d'aller voir.
Bon, il faut quand même mettre un petit peu de crème anti-rides pour avoir l'air.
Un petit peu, c'est autorisé.
Alors après, il y a quand même encore d'autres peurs à sortir de... des embûches, il y a aussi cette peur de perdre la tête, en fait. Donc ça ce qui rejoint quand même cette dépendance, ce poids de la société.
Ouais, ça rejoint la dépendance, mais ça invite quand même à se poser déjà quelques questions, hein, sur où est-ce que j'ai envie de vivre, comment j'ai envie de vivre, c'est quoi les espaces qui pourront m'accueillir quand je serai plus âgé.
Ça se prépare longtemps à l'avance, à votre avis?
Ça s'anticipe. Donc j'ai une connaissance qui a son papa, qui a Alzheimer. Je vois à quel point c'est compliqué de trouver un lieu pour l'héberger, pour l'accueillir. Ça coûte cher. Donc déjà, il y a une question, encore une fois, on revient aussi à une question d'argent. Ça coûte cher, il faut trouver le lieu, il faut trouver l'espace. Donc ce n'est pas simple. Et puis Alzheimer, il y a aussi cette notion de perdre la tête, de perdre le contrôle, de peut-être potentiellement, on sait qu'à un moment donné, on ne reconnaît plus les siens, on peut devenir agressif. Donc il y a aussi tout cet imaginaire-là hein, qui travaille. On ne sait pas ce qui va se passer.
Et en tout cas, quand on le voit chez les autres, ça nous effraie à peu près tous, je pense.
Et ça nous fait peur. Et ça fait peur à juste titre. On sait qu'on peut, on sait que c'est en plus une démence qui augmente, Alzheimer. On a de plus en plus de cas. Donc on voit qu'il va falloir apporter des réponses dans la société pour mieux l'accueillir. On sait que maintenant, il y a des moyens de le prévenir aussi. On sait que tout ce qui tourne autour de l'hygiène émotionnelle, de savoir se faire accompagner, de parler peut-être de ce qu'on a vécu, nos regrets, les émotions fortes là, qui nous ont travaillé tout au long de la vie. On sait que ça peut aider.
Et puis vraiment, après, il y a toute cette peur aussi quand même il y a cette peur de la solitude, de la perte de l'autre, hein, de celui avec lequel on a partagé peut-être un long chemin de vie, jusqu'à la peur de mourir. Donc c'est légitime encore, ces peurs. Enfin, c'est légitime et ça arrivera bien un jour.
Et ça arrivera bien un jour. Et en effet, il y a aussi cette peur de quitter déjà un être cher, potentiellement un conjoint qui part, qui meurt avant nous. Il y a cette peur de changer de lieu, changer de maison, changer de domicile quand on va devoir potentiellement aller dans une maison de retraite ou autre. Et puis avec l'image qu'on a des maisons de retraite, en tout cas moi quand j'y pense, ça me fait pas rêver. L'image qui est véhiculée par les médias sur ces lieux, c'est pas incroyable.
Surtout quand on y meurt enfermé tout seul.
Et quand on y meurt enfermé potentiellement tout seul, comme on l'a vu l'an dernier avec une déshumanisation forte des personnes âgées. En tout cas, on se questionne hein, sur
Donc,
comment.
Toutes ces peurs, en tout cas, on va plus ou moins toutes les rencontrer, plus ou moins bien les vivre, et donc ça s'anticipe. Alors, on va faire une petite pause. Donc, vous êtes là toujours sur RCF, Hauts-de-France, dans Vie de Famille, en compagnie d'Emmanuel de Maillard. Et donc, on a à cœur, avec Emmanuel, de passer en revue un peu, effectivement, toutes ces peurs qu'on a vues en première partie sur la peur du vieillissement, est-ce qu'elles peuvent encombrer dans notre tête. Mais il y a aussi tout un tas de regrets. Mais les regrets, pour le coup, on peut peut-être déjà les préparer avec des antidotes. Alors, c'est ça ce que vous allez nous présenter un peu maintenant, Emmanuel?
Oui. Il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, qui est un livre de Bronnie Ware, une infirmière qui a accompagné en soins palliatifs pendant quasiment toute sa vie. Et en écoutant ces personnes en fin de vie, elle en a tiré 5 grands regrets. Mais 5 grands regrets, ce qui est incroyable, c'est qu'ils peuvent nous permettre de se mettre en action.
Et moi, chaque fois que je les relis... Quand on a 41 ans, on peut commencer à se dire, voilà, moi, c'est tout ce que je ne veux pas faire.
Exactement. Et à 41 ans, moi, chaque fois que je les relis, il se passe quelque chose. Et il y a des petits déclics, il y a des mises en mouvement. Et j'avais lancé un petit atelier digital pendant le confinement qui s'appelait « Vieillir, c'est mortel ». Et si on en parlait pour vivre une happy life, où on explorait ces 5 grands regrets. Et à chaque fois, il se passait des déclics. Chaque fois, il y avait des mises en mouvement au service de la vie. Et c'est un peu ça que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui.
Ah ouais. Alors, moi aussi, j'ai bien envie de les connaître. Alors, quels sont les regrets peut-être les nommer déjà une fois ou...
Ouais, on peut les nommer. En tout cas, le premier regret déjà, c'est j'aurais aimé avoir le courage de vivre ma vie par moi-même, pas la vie que les autres voulaient pour moi, que les autres voulaient que je vive. Ça, c'est le regret commun. C'est un peu ce poids, peut-être, de la société, des personnes autour qui font qu'à un moment donné, de la famille, qui fait qu'on va s'engager sur une voie sans que ce soit vraiment la voie qu'on a envie de vivre. Sans qu'on ose sortir des sentiers battus, sortir de la route qui est là, toute tracée devant nous, pour oser vivre ce qui vraiment nous fait envie. Et j'ai toujours en tête cette personne que j'avais accompagnée en soins palliatifs. Je passais beaucoup de temps avec lui puisqu'il ne pouvait plus parler. Donc, il avait une trachéo et donc il communiquait avec une ardoise. Donc, entre chaque question, j'avais quelques minutes, moi, pour méditer. Et il me racontait à quel point il avait été passionné toute sa vie par la photo, sauf qu'il avait travaillé dans les télécoms. Parce qu'à l'époque, sa famille, c'était une histoire. Ils avaient tous travaillé dans les télécoms et lui avait travaillé dans les télécoms. Et il me racontait avec une petite larme dans les yeux la première photo qu'il avait été développée. Cette époque où on attendait encore une semaine avant d'avoir nos photos qu'on avait prises pendant nos vacances.
C'est vrai qu'on avait oublié ce temps-là.
Il me l'a rappelé avec beaucoup de joie. Et voilà, chanter cette passion finalement qu'il avait vécue comme un loisir, mais à quel point il aurait aimé en fait la vivre plus profondément tout au long de sa vie. Et ça, quel que soit l'âge, on peut toujours décider d'aller explorer nos passions. On peut toujours décider d'aller s'engager pour quelque chose qui nous tient à cœur. Aller s'engager pour le monde si on en a envie. Aller voyager, changer de métier, découvrir. On a toujours cette possibilité-là. On a toujours ce luxe-là.
En tout cas, ça va me permettre de le dire pour vous. C'est quelque chose que vous-même, vous avez expérimenté pour vous en osant travailler à 80% pour avoir du temps pour justement ce qui vous anime par ailleurs, en plus de votre métier quand même.
En tout cas, ce que je me suis dit, c'est qu'à un moment donné, j'avais envie d'avoir un travail qui contribue à quelque chose qui fasse sens pour moi. Et que j'avais travaillé toute ma vie dans les achats, dans la production, ce qui était très bien à ce moment-là. Et puis tout d'un coup, je me disais, mais en fait, ça, c'était quoi? C'était un rêve d'avoir peut-être un poste, une position, une fonction, une carte de visite. Mais ce n'était pas ce qui me faisait vibrer au quotidien. Et ça m'a permis de changer, en tout cas de réorienter ma carrière.
Ouais.
Et de décider, en effet, aussi de passer à 80%, qui est en lien avec le deuxième regret. Le deuxième regret qui est j'aurais aimé ne pas travailler si dur, mais pas travailler si dur, pas dans le côté de l'énergie que je mets à travailler, celle-là elle est bonne, mm-hmm. mais dans le temps que je consacre parfois à mon métier
ou dans lequel au contraire je m'enferme même
et dans lequel je peux m'enfermer, en tout cas je peux fuir autre chose, peux peut-être rater une autre partie de ma vie.
Se poser à un moment donné la question quel est mon rapport à mon travail en fait.
Quel est le rapport à mon travail et puis quel est mon rapport au temps.
Mm-hmm.
Moi je dis souvent aux gens, regardez une semaine de votre vie, il y a à peu près une centaine d'heures éveillées. Regardez sur 100 heures combien vous en passez au travail, combien vous en passez avec vos enfants, combien vous en passez avec votre femme, avec votre conjoint, avec votre ami, combien de temps vous en passez à faire du sport, à vous occuper de vous. Et quand vous allez regarder ça, souvent déjà ça fait un petit peu peur parce qu'on prend conscience que ce qui est soi-disant le plus important pour nous, c'est peut-être pas là où on passe le plus de temps. Donc une vraie invitation à revoir son rapport au travail. On peut avoir un travail engagé, on peut décider de travailler un peu moins et en tout cas de revoir un peu son équilibre de vie pour pouvoir aller là où on a envie d'aller. Et donc pour moi c'était 80%
ouais.
pour voir mes enfants grandir. Mm-hmm. Je dis souvent, tant qu'ils veulent bien que je les accompagne jusqu'à l'entrée de l'école, je vais en profiter. Il n'y a pas longtemps, ma fille de 10 ans m'a dit « Papa, tu peux nous laisser à côté de l'école ?» Bon.
Oui, ça y est. Donc,
j'ai dit mince.
J'ai juste le temps d'en profiter. Donc, on a vu qu'effectivement, qu'il y avait ce travail, de ne pas avoir fait ce qu'on aurait voulu faire finalement. Il y a aussi quand même quelque chose qui est important, qu'on découvre plus aujourd'hui à notre époque, c'est de savoir dire les choses, parler de nos émotions.
Je suis impressionné, en tout cas, ce qui est proposé pour les jeunes maintenant. Je crois que ma fille de 7 ans, à l'école, ils travaillent sur les émotions. Chaque semaine, ils avaient une personne qui leur parlait des émotions. Donc, ils avaient cette capacité ils la développent, d'avoir le vocabulaire, le dictionnaire des émotions.
Ouais.
On est souvent assez pauvres, à part les quelques émotions primaires.
J'ai peur, j'ai faim. Enfin, c'est pas une émotion.
Que j'ai peur, la joie, la tristesse. À part ces quelques émotions, on a un vocabulaire souvent assez pauvre. Pour autant, savoir les exprimer, c'est quelque chose qui est essentiel. Et les personnes en fin de vie, souvent, se disent « mince, en fait, il y a des personnes qui comptaient pour moi, je ne leur ai pas dit qu'ils comptaient pour moi. »
Oui, donc c'est non seulement les émotions, mais c'est aussi les sentiments. En fait,
les émotions, les sentiments, aussi bien positifs que parfois négatifs. C'est aussi savoir dire des choses qui, des fois, ne sont pas confortables, ne sont pas agréables, des relations qui ne nous vont plus, sur lesquelles
pourtant,
on aimerait dire.
Dit, c'est tellement libérant.
Et pourtant, c'est libérant et ça remet
finalement, l'autre n'est pas
ça remet de la vie dans la relation.
Hein. Et souvent l'autre n'est pas ébranlé quand on lui dit des choses qu'ils nous ont tenues à cœur.
Exactement. On s'imagine beaucoup de choses sur l'impact de ce qu'on pourrait dire.
Ouais.
Mais finalement, on se rend compte que quand on le dit, ça fait du bien. Et ça permet d'avoir des relations vivantes, des relations qui évoluent.
Plus vraies.
Plus vraies, plus authentiques.
Et alors, dans les regrets encore qui ont été vus par cette experte, il y a aussi celle du contact avec ses proches, avec des amis proches.
Ouais.
Il y a beaucoup de gens qui arrivent finalement en fin de vie en disant bah, « en fait, ils sont où tout cela ?»
Ils sont où tout cela. Et ça fait le lien avec une magnifique étude qui s'est faite dans le temps, qui est une étude qui a duré 75 ans. On a essayé de mesurer qu'est-ce qui contribue le plus au bonheur des gens. Et la personne qui a fait cette étude, il a étudié des gens de tout horizon, de tout niveau économique. Il a essayé de faire vraiment une étude représentative. Et il a montré qu'un des facteurs clés du bonheur pour l'être humain, c'est la qualité des relations qu'on a avec les personnes autour de nous. La quantité aussi va jouer, mais la quantité sans la qualité n'a aucun sens. Donc la qualité des relations longues, concrètes, est le premier élément qui va impacter le bonheur des individus.
Alors est-ce que cette relation-là, elle est forcément extra-familiale ? Ou bien elle peut être intrafamiliale, parce que en fait, celle pour laquelle on a le plus de sécurité, c'est quand même notre lien de famille. On sait que de toute façon, on se quittera jamais, puisqu'on a ce lien-là. Mais
on sait qu'on se quittera jamais. C'est une bonne question. Je sais pas pour tout le monde.
Ouais, ouais.
Il y en a qui se quittent.
Non, mais enfin, je veux dire, le lien existera toujours. En tout cas, on pourra pas dire une amitié peut se.
Alors ça questionne même le mot famille. Hein. Il y a deux trois livres qui explorent la notion de famille. Hein. Est-ce que la famille c'est que le lien du sang? Est-ce qu'on pourrait considérer que nos voisins on forme une certaine une famille aussi?
Ah ouais.
En tout cas, dans traditionnellement, ce rapport à la famille fait que c'est des relations qui durent. Mais pour autant, ce n'est pas toujours les relations les plus simples et les plus authentiques. Donc ça, moi, ça me questionne.
Mmh.
Hein, comment au sein de la famille, et c'est souvent l'espace le plus difficile pour vivre l'authenticité, mais comment au sein de la famille, on ose se dire les choses.
Récurrent, c'est celui qui fait le plus mal, qui gratte le plus.
C'est celui qui gratte le plus.
Ah bah c'est sûr.
Et du coup, le plus exigeant peut-être.
Oui.
En tout cas, la famille, c'est un des éléments. Et autour de la famille, c'est aussi les amis proches, quoi, hein, ces amitiés qu'on a mis du temps à construire. Qu'est-ce qu'on fait pour les maintenir, les entretenir? Il y a des moments, on a des choix de vie, on doit déménager, on a des événements de vie.
On doit se quitter.
Mais est-ce qu'on choisit de garder certaines amitiés, de prendre du temps? Moi, quand j'ai lu ça, je me suis rendu compte que j'avais deux couples d'amis que j'avais perdu de vue depuis quelques années, qui étaient des personnes qui avaient compté pour moi. Je les ai rappelés et maintenant, deux fois par an, on se fait un week-end ensemble et on passe du temps ensemble. Et je mesure à quel point c'est précieux.
Oui, parce que du coup, on n'a pas besoin de se raconter l'histoire, puisqu'on se connaît déjà.
Exactement.
Donc on passe à autre chose.
Exactement. Et c'est long de construire une amitié.
Ah oui, ça c'est sûr, hein, c'est sûr. Mais alors, du coup, on peut dire que ça fait partie de nos richesses quand on devient vieux, c'est qu'on s'est enrichi de ces relations de long cours, on va dire. Et après, il y a aussi, et je crois que c'est assez vrai quand même, ce problème de pas s'autoriser à être heureux, mais ça c'est terrible.
Ouais, celui-là c'est le plus terrible, le plus violent. Mais quand je regarde mes enfants, je me dis mince, ça a pas l'air compliqué.
Tant mieux pour eux, c'est déjà pas mal.
Et s'autoriser à être heureux, c'est sortir un peu des voies toutes tracées, des autoroutes, des conventions.
Peut-être aussi des médias, sortir un peu de l'amorosité ambiante aussi.
Des médias, ouais, je regarde.
Beaucoup de choses qui nous font aller vers le moins bien, alors que finalement, si on y regarde de plus près autour de nous, ça va.
Exactement. Il y a une phrase, c'est dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es.
Mm-hmm.
Mais ce que tu manges, c'est tout de quoi tu te nourris. Hein. Si on se nourrit en effet de l'actualité et des journaux tous les jours, on a l'impression de vivre dans un monde atroce.
Et de détective.
De violence. On a l'impression qu'il n'y a que des trucs qui vont mal. Donc,
il vaut mieux prendre Mon Jardin ou voilà. Voilà, des livres comme ça qui nous...
Et il y a des médias positifs. Il y a des médias qui cultivent et qui entretiennent et qui envoient des infos positives. Donc écoutons ces médias en priorité. Choisissons.
RCF. C'est ce que vous alliez dire. Non, ce n'est pas ce que vous alliez dire.
Si, j'ai pensé à ça tout de suite. Écoutons les médias positifs parce que c'est aussi ça qui va nous donner l'énergie. Et puis autorisons-nous à chanter, à danser, à... Voilà, moi j'essaie d'imiter mes enfants pour ça.
Et alors, en vue de quoi tout ça en fait ? C'est quoi le but ultime de se poser toutes ces questions tout au long de notre vie finalement ? Ou de bien entretenir tout ça ? C'est quoi l'ultime ? Ça répond à quoi, à votre
avis ? Pour moi, ça questionne profondément le sens qu'on a envie de donner à notre existence. Parce que je suis un passionné de questions de sens et je crois que si j'explore ces questions-là, c'est parce que j'ai envie de me poser la question Et j'invite à se poser la question, mais finalement, à quoi ça sert cette vie-là qui m'est offerte? À quoi j'ai envie de contribuer? Bien vieillir en bonne condition de santé, c'est bien, mais pourquoi ça? C'est même la bonne santé d'ailleurs. C'est quoi le sens d'être en bonne santé? Exactement, c'est pour en faire quoi? Et moi, je crois profondément que ça, cette santé, cette vie qui m'est offerte, c'est comment je peux contribuer au bien commun et comment je peux contribuer à quelque chose qui me dépasse en fait tout au long de ma vie.
En fait, vous avez toujours 20 ans finalement.
J'ai toujours 20 ans. Et ça, c'est beau. Je ne vieillis pas.
Merci Emmanuel. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Merci Emmanuel de Maillard de nous avoir accompagné aujourd'hui pour trouver des ingrédients qui sortent un peu des sentiers battus de ce bien vieillir qui aurait pu être lassement, avoir une bonne santé, etc. Voilà, on a entendu des belles choses aujourd'hui et j'espère que ça aidera l'ensemble de nos auditeurs à prendre conscience aujourd'hui de cette joie et de ce chemin qui nous est donné de vivre aujourd'hui et pour l'avenir.